Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Jour 56 de la guerre en Ukraine. On va faire le point. D'abord, la Russie là qui monte ses muscles, si on veut. On annonce un test de missile intercontinental destiné à déjouer les défenses antimissiles. Il y a une part de propagande là-dedans, mais c'est quand même une démonstration de force. La Finlande, qui est un pays frontalier de la Russie, a commencé le débat politique pour se joindre à l'OTAN. Historiquement, la Finlande est un pays non aligné, mais disons que l'agression russe en Ukraine a changé les mentalités en Finlande. On veut pas être les prochains Ukrainiens, disons ça comme ça. Mais l'histoire du jour dans la guerre en Ukraine, ce sont ces soldats et citoyens qui sont retranchés dans une usine métallurgique à Mariupol qui est bombardée par les Russes. Et les soldats ukrainiens qui sont là-bas ont fait une vidéo dans les dernières heures pour dire justement qu'ils vivent peut-être leurs derniers jours, leurs dernières heures. On va les rejoindre sur le terrain en Ukraine. Clémence Dibou, journaliste pour la chaîne française BFM TV, qui se trouve présentement à Dnipro. Clémence, bonjour.
Bonjour et je vous dis bonsoir, Patrick.
Oui, évidemment. Merci. D'abord, décrivez l'endroit où sont retranchés les derniers soldats ukrainiens de Mariupol.
Eh bien, il s'agit d'une usine métallurgique, l'usine Azovstal. Alors, il faut savoir que cette usine, en fait, c'est un immense complexe industriel qui produit du matériel de chemin de fer, des grues, enfin, qui produisait, évidemment, elle est à l'arrêt. Industriel de 11 km carrés avec des dédales de souterrains sur plusieurs niveaux qui datent de l'ère soviétique et où on peut se retrancher. Il y aurait environ 3000 soldats ukrainiens. Ce sont des estimations parce qu'évidemment il y a très peu de journalistes sur place pour aller vérifier. Parmi ces soldats, il y aurait des mercenaires étrangers et des soldats ukrainiens, mais aussi, et ça, et c'est évidemment un aspect dramatique de l'histoire, il y aurait aussi des civils, à peu près 1000 civils retranchés selon les autorités ukrainiennes, qui s'étaient cachés là au début des combats, qui sont toujours sur place et qui vivent effectivement dans la peur. Et en entendant des tirs tous les jours, il y aurait parmi ces civils beaucoup d'enfants, de femmes et de personnes âgées.
On sait que ces soldats sont bombardés, les civils avec eux évidemment aussi. Bon, il y a beaucoup d'endroits où se cacher, vous l'avez décrit là, Clémence. Mais est-ce que ces soldats-là peuvent retourner le feu aux Russes? Est-ce qu'on sait ça?
Ce que l'on sait, c'est que tactiquement parlant, ils gardent l'entrée de ces souterrains et que donc, du coup, ça oblige les forces russes ou les forces séparatistes pro-russes, eh bien, à devoir venir à l'entrée des souterrains. Et ça, c'est très meurtrier parce qu'un combat corps à corps, forcément, ce serait à l'avantage de ceux qui sont déjà dans le tunnel. Or, les tunnels sont tellement profonds que des bombardements, des tirs d'artillerie ne les atteindraient pas. Donc, évidemment, la situation est assez figé pour l'instant, et c'est pour ça que cet appel vibrant sur Facebook a été entendu du monde entier. Nous vivons peut-être nos dernières heures, vous en parlez tout à l'heure, c'était le chef de la 36e brigade de la Marine nationale qui appelle les dirigeants du monde entier, bien soit plus les armées, soit aussi à essayer de voir pour des couloirs militaires pour les extraire de Mariupol.
OK, pour les Russes, Mariupol, c'est une ville stratégique. Expliquez aux gens qui nous écoutent présentement pourquoi c'est une ville si importante.
C'est une ville importante, vous avez complètement raison, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord parce que Mariupol, en 2014, la première offensive russe dans le Donbass, a farouchement résisté à l'invasion russe. Or, Mariupol, c'est une terre russophone et donc russophile pour les Russes, et ça n'a pas plu au Kremlin, et bien que Mariupol se défende et ne veuille pas rejoindre le Donbass autonome pro-russe. Voilà la première raison. Ensuite, effectivement, c'est un grand port industriel et qui permettrait de faire la jonction totale sur toute la mer d'Azov depuis Odessa, qui pour l'instant est encore ukrainienne, jusqu'au Donbass, et qui permettrait donc d'étouffer l'Ukraine et de lui enlever son accès à la mer.
OK, Clémence Dibou, vous vous trouvez présentement dans la ville de Dnipro. C'est une sorte de base arrière de la résistance, un centre de logistique. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas comme élément de reportage?
Eh bien, en fait, c'est d'ici que s'organise tout ce qui va être l'arrière-front. Ici, on est au carrefour de trois fronts. Kharkiv au nord, la ville de Kharkiv, le Donbass évidemment à l'est, et puis au sud, la Crimée et Kherson. Et donc, c'est très intéressant d'être au carrefour de ces trois zones parce que le vice-gouverneur de la région Dnipro nous expliquait en fait qu'il se voit désormais comme, je cite son image, le cordon ombilical, le pont qui relie le front au reste de l'Ukraine. C'est là, en fait, qu'ils ont créé un hub logistique. On a visité cet après-midi avec David Bouteiller, qui est avec moi sur le terrain pour BFM TV. On a pu visiter un immense centre logistique avec des volontaires, 600 volontaires bénévoles qui travaillent 7 jours sur 7 pour faire des colis alimentaires, de médicaments ou encore de vêtements pour le front. Et ils sont effectivement, ils ont expliqué qu'ils font des colis très rapidement. C'est les soldats qui envoient des commandes, un petit peu comme au restaurant, sauf que là, c'est pour du matériel technique. Ils peuvent répondre dans la minute aux demandes qui sont ensuite envoyées au front. Et si on mêle les colis pour les soldats, les colis pour les réfugiés, on atteint parfois 20 000 personnes qui sont nourries via ces centres logistiques par jour.
Clémence, ça fait des semaines que vous faites des reportages pour la chaîne BFM TV, que vous collaborez à cette antenne. On approche des 2 mois de l'agression russe en Ukraine. Parlez-nous du moral des Ukrainiens. Qu'est-ce qui a changé depuis 56 jours?
C'est vrai que le moral des Ukrainiens, on sent qu'ils vivent tous des moments très difficiles. Par exemple, le Fixeur avec qui on travaille, donc le Fixeur c'est un journaliste ukrainien local qui nous aide à travailler sur place, par moment il n'a pas le temps de travailler avec nous parce qu'en fait il est en train de voir comment évacuer ses deux parents, son père et sa mère qui sont à Kherson et qui veulent partir, qui veulent rejoindre la zone ukrainienne. Et de temps en temps il est absent parce qu'il faut qu'il gère ça et évidemment c'est la priorité absolue. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que leur soutien au président Zelensky, qui n'était pas forcément acquis avant le conflit, est total, général, largement partagé. Le sentiment de fierté nationale, le sentiment pro-ukrainien, il est vraiment très répandu, et même dans les populations russophones, c'est important de le préciser.
Paradoxalement, c'est cette guerre-là faite par les Russes aux Ukrainiens, est-ce que vous diriez, Clémence, qu'elle va solidifier le sentiment national ukrainien?
Oui, c'est le sentiment que ça donne ici, parce qu'effectivement, jusque-là, il y avait une différence entre l'Ouest, beaucoup plus européen, beaucoup moins russophone, et puis l'Est, beaucoup plus proche de la Russie. Or, on a l'impression que désormais, toute l'Ukraine se retrouve derrière le président Zelensky, se retrouve derrière un projet, c'est de se défaire complètement de l'héritage russe. Par exemple, à Dnipro, la ville où nous sommes, qui est une ville russophone. Il faut savoir en fait que l'ukrainien et le russe, c'est très proche en langage, mais il y a des mots qui diffèrent. Et Dnipro, par exemple, on parle le russe. Et il y a un projet municipal très sérieux pour décrocher le nom de nombreuses rues aux consonances russophones pour leur redonner un nom à consonance plus ukrainienne.
Donc, si je comprends bien, Clémence, dans cette zone russophone où vous vous trouvez, c'est pas parce qu'on a qu'on a des noms russes, qu'on parle le russe, qu'on est pour les Russes.
Non, et c'est tout à fait l'erreur stratégique qu'a fait Vladimir Poutine. Il pensait sincèrement que son armée russe serait accueillie les bras ouverts. Les soldats russes aussi pensaient être accueillis les bras ouverts, a fortiori parmi les populations russophones. Par exemple, cette fameuse ville de Kherson. Pour l'instant, c'est la seule grande ville qui est complètement tombée aux mains des Russes, puisque Mariupol, il y a encore des poches de résistance. Et cette ville de Kherson, on a pu voir des images amateurs, de courageux Ukrainiens qui sont sortis pour aller manifester contre l'occupation russe. Et ça a déboussolé, ça a déconcerté les soldats russes qui souvent étaient des jeunes soldats conscrits et à qui on avait expliqué dans la propagande russe qu'on allait les accueillir à bras ouverts en libérateur. Ils ont été très surpris par cet accueil justement où on leur demandait de rentrer chez eux, qu'ils étaient vus comme des envahisseurs. Et effectivement, ça, même dans les villes consonances russophones.
Merci beaucoup pour ce compte-rendu, Clément. Je souhaite une bonne soirée à Dnipro. Faites attention à vous.
Merci à vous.
Merci. C'était Clémence Dibou, journaliste de BFM TV. C'est une chaîne française. Elle se trouve à Dnipro, en Ukraine. Commentaire sur les woke, le wokisme. Je sais, c'est un sujet qui est très sensible. Et après ça, on va en discuter, MC Gilles, Catherine et moi. Écrivez-moi au 98985 si vous avez un point de vue là-dessus. Donc, c'est quoi être woke? Écoutez, woke, c'est d'abord un temps de verbe pour éveiller. En anglais, I am woke. C'est une façon de parler. C'est une sorte de joual afro-américain, si on veut. Le mot woke existe dans la chanson afro-américaine depuis le début du 20e siècle. Et la première trace écrite dans les médias qu'on a pu retrouver, ça remonte à 1962. Ça voulait dire rester informé dans le langage de la rue. Et woke est revenu sur le radar récemment, là, en 2014. C'était après la mort d'un jeune noir sous les balles de la police à Ferguson, au Missouri. Et le mouvement Black Lives Matter a popularisé le terme, le mot woke, qui a pris, disons, une nouvelle signification, qui était cousine, si on veut. Rester éveillé face au racisme, face à la discrimination dont sont victimes les Noirs américains. Et 8 ans plus tard, on peut dire que le mot woke a été détourné. C'est devenu une sorte de mot fourre-tout. Aux États-Unis, ben, le travail des forces conservatrices a été pas mal efficace. On a détourné le mot woke pour en faire une sorte d'épouvantail. Et maintenant, toutes les tentatives pour combattre les inégalités, tous les combats contre l'injustice raciale, par exemple, sont désormais taxés avec beaucoup de sarcasme, de wokisme. Même les combats qui sont très, très souvent très légitimes. C'est rien de nouveau, remarquez, hein, parce que c'est une vieille technique. Caricaturer un mouvement social pour le décrédibiliser, pour lui enlever de la légitimité. Un exemple, la caricature de la féministe enragée qui déteste tous les hommes, qui a du poil en dessous des bras, qui brûle son soutien-gorge. Ce cliché-là, il a été inventé et propagé pour une raison. C'est pour enlever de la légitimité à tous les combats féministes. On caricature l'adversaire, puis on attaque la caricature, et ainsi, tous les adversaires deviennent la caricature. Chez les progressistes, chez les woke, est-ce qu'il y a des dérives? Est-ce qu'il y a des exagérations? Évidemment. Et si vous avez suivi ce qui se passe à l'UQAM présentement, où il y a des militants de l'extrême, extrême, extrême gauche qui intimident des militants étudiants, des leaders étudiants qui sont jugés pas assez à gauche, ben ça, c'est un exemple de dérive, évidemment. Pour ceux-là, même Québec solidaire est jugé trop à droite. Mais ces dérives-là, ça existait bien avant l'invention du mot « woke », avant que le mot s'impose. Écoutez, dans les années 70-80, les plus vieux vont s'en souvenir, il y avait des guerres idéologiques tout aussi stupides à gauche, à l'extrême de l'extrême gauche. Les maoïstes contre les trotskistes, les adeptes du modèle du communisme albanais contre le modèle du communisme cubain. Ça en venait quasiment au point. Et il y a toujours eu du délire chez les gens qui sont idéologiquement teintés très, très à gauche. Ça ne veut pas dire que toute la gauche était et délirante. René Lévesque était de gauche. Mais qu'est-ce qu'on disait pour décrédibiliser son gouvernement? On disait que Lévesque, c'était le Castro du Nord. Je reviens au wokisme. Le wokisme, c'est beaucoup assimilé à ce qu'on appelle la culture de l'annulation. Hein? C'est annuler des auteurs qui sont jugés pas assez progressistes. C'est vouloir interdire des livres, comme par exemple la tentative d'annuler des livres jugés racistes, comme des bandes dessinées de Tintin. C'est annuler une prof qui a utilisé le mot en haine, en la salissant, en l'intimidant, en la harcelant sans relâche, sans égard au contexte aussi. Tout ça, c'est évidemment exagéré, ça existe. Mais la gauche, je voudrais le dire aujourd'hui, puisqu'on parle de wokisme, n'a pas le monopole de l'annulation. Et c'est le propos que je veux tenir aujourd'hui. Quand la gauche, ou l'extrême gauche plutôt, veut annuler, il y a des bataillons entiers de commentateurs, ici au Québec, bien souvent mes amis chroniqueurs du Journal de Montréal, que je salue, qui sont prêts à déchirer leur chemise. Ça donne beaucoup, beaucoup de clics parler de woke et de wokisme. Mais il y a des forces à droite aujourd'hui qui annule aussi en toute impunité. Aux États-Unis, la Floride interdit de parler d'homosexualité en classe, par exemple. Prononcer le mot « gay » dans les salles de classe en Floride, ça peut théoriquement mener à un congédiement si un prof parle de son homosexualité. C'est une forme étatique d'annulation très, très concrète, ça. Au Texas, ben il y a les personnes trans, les personnes d'âge mineur, qui sont suivis médicalement par un médecin, qui veulent avoir des traitements hormonaux, par exemple, ces enfants-là peuvent être retirés. Il y a une ambition du pouvoir politique de retirer ces enfants-là de la garde de leurs parents. Ça aussi, c'est une forme étatique d'annulation. Au Québec, je sais, je me ferai pas d'amis en disant ça, la loi 21 qui interdit à des femmes portant le hijab d'enseigner des matières comme la mathématique, c'est une forme d'annulation. S'il s'agissait d'hommes blancs qu'on voudrait empêcher d'enseigner, on n'hésiterait pas à parler d'annulation. Et il y a 2 ans, ici au Québec, ben, l'État a même annulé un professeur d'université. Daniel Weinstock, qui est un prof à l'Université McGill. Weinstock devait être panéliste dans une conférence du gouvernement sur la réforme du cours d'éthique et de culture religieuse. Et Richard Martineau, dans une chronique, a fait dire à Weinstock que Weinstock était pour l'excision des jeunes filles. C'était totalement et c'était complètement faux. Quand on se ramenait à la conférence qui a été détournée par Richard Martineau, Weinstock ne disait pas ce que la chronique de Martineau lui faisait dire. Mais le ministre Roberge, ministre de l'Éducation, a annulé la présence de Daniel Weinstock à cette conférence-là. Faut dire que Weinstock, c'est pas quelqu'un qui est sympathique, disons, aux questions identitaires comme la loi 21, comme les accommodements raisonnables. On l'a annulé. Pas grand monde qui s'est, disons, déchiré la chemise pour dénoncer ça. Je reviens au mot woke. Ce qu'on appelle les woke, c'est vrai qu'ils exagèrent. Ben oui, je comprends, j'en suis. Voir de l'appropriation culturelle partout, par exemple, notamment chez un restaurateur québécois qui veut faire une soirée de bouffe coréenne dans les cours de yoga donnés par des Blancs, tenter d'annuler ce monde-là, c'est sûr que c'est de l'exagération. Et il y a des hyper-progressistes, des woke, disons ça comme ça, qui méritent de faire rire d'eux. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais tout ramener au wokisme, tout le temps, ben c'est une forme de déni, de combat qui sont légitimes. Quand il y a des Noirs qui sont surreprésentés dans les statistiques d'arrestation, d'interpellation de la police, c'est pas du wokisme de se poser des questions là-dessus. Quand il y a des enfants trans qui sont surreprésentés dans les statistiques de suicide, pas du wokisme de se demander comment on peut éviter la mort de ces enfants-là, comment on peut les aider à être mieux dans leur peau. Quand il y a des Autochtones, des Inuits qui sont surreprésentés dans les statistiques d'itinérance, d'alcoolisme, de toxicomanie, c'est pas du wokisme de parler des ravages de siècles de colonialisme. Bref, oui, moi aussi, les woke m'énervent des fois. Mais les anti-woke qui voient du wokisme partout, les anti-woke qui font une obsession sur chaque tentative de faire reculer les injustices sociales, les anti-woke qui parlent des woke chaque jour, chaque semaine, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et comme par hasard, ça fait beaucoup de clics, ben, ce serait bien qu'on parle des obsédés aussi qui voient des woke partout et qui, eux aussi, essaient d'annuler.
Le Québec maintenant! Le Québec maintenant, votre point de repère.
Le Québec maintenant. J'ai une question, et je reviens à ma question du départ. J'ai beaucoup aimé ton éditorial. Évidemment, je suis pas d'accord sur tout, mais on est là pour discuter.
Quoi?
Je suis désolé.
Je t'annule.
Mais moi, il y a une question que j'ai. Évidemment, vous pourrez pas me répondre parce que vous êtes jamais catalogué ni un ni l'autre de woke. Ou peut-être que oui. Mais c'est la discussion qu'on n'a pas eue dimanche soir. Il y a une chose que
quand t'étais à Tout le monde en parle.
Voilà, avec
Marie-Louise Arsenault,
d'après ce que j'en ai compris, et je veux pas parler pour elle, mais d'après ce que j'en ai compris, ne veut pas qu'on la catalogue de woke. Sophie Durocher a écrit un texte sur l'émission de Marie-Louise Arsenault en disant que c'était plus on est de woke, plus on lit, ou quelque chose comme ça, en faisant un jeu de mots. Bon, avec le fait qu'elle serait woke et qu'elle invite des gens woke. Et Marie-Louise, en arrivant à Tout le monde en parle, émis la définition que tu viens de faire, à peu près similaire, de ce qu'est quelqu'un de woke. Ce qui était très positif, c'est quelqu'un d'éveillé. Oublions le sens péjoratif du mot, OK? On utilise ce mot-là en disant « je suis éveillé ». Je la cite. « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici qui est contre le combat, contre les injustices sociales? » Personne. On est tous pour combattre les injustices sociales. Donc, ma question est la suivante. Si on démontre que le mot est les gens de gauche, les gens qu'on accuse d'être woke, c'est un mot positif, c'est sympathique. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser ou on peut pas l'utiliser?
Quelle est
la question?
MC, tu peux utiliser les mots que tu veux. Moi, tout ce que je souligne ici, c'est que...
Fessez sur le clou.
Regarde, je suis allé à Ferguson, au Missouri, ouais, quand Michael Brown a été tué. J'avais couvert les troubles là-bas. Et après ça, là, le mot woke a gagné en puissance, comme Black Lives Matter. Mm-hmm. C'était une sorte de... Les militants progressistes s'identifiaient comme woke. Mais on peut pas nier le fait que les forces conservatrices aux États-Unis et ailleurs, mm-hmm, ça a inspiré, ça a fait des rejetons un peu partout, ont détourné le sens de ce mot-là pour ridiculiser tous les combats légitimes du progressisme contre l'injustice sociale, en montant en épingle chaque dérive, chaque exagération. Mmh. Et là, tu dis, là, c'est rendu que de t'insurger contre le profilage racial, c'est quasiment rendu du wokisme. Ben, je m'excuse. Ça ne l'est pas.
Comme on utilisait le mot séparatiste à mauvais escient.
Oui.
Comme on a
en étirant le S six fois.
Socialiste. Oui. Nationaleux. Tu sais, bon, il y a plein de mots comme ça. Je te laisse parler tout après, Catherine. Ben, c'est justement. Mettons que je me dis woke. OK? Je suis pour le combat, puis je veux me battre contre les injustices. Je suis woke. Et là, je vois. Oui, je suis désolé, je vais ressortir les histoires. Des gens qui brûlent des livres. Ben non, on va prendre l'histoire de cette semaine. Là. On peut pas se réunir avec une bière dans un parc entre les gens du camp parce que ça serait mal et ça c'est bon. Là, si moi je suis woke et j'entends ça, je veux pas être associé à ce monde-là. Moi, c'est des tout croches, c'est des mêlés. Et là, les gens les attaquent en disant qu'ils sont woke. Fait que je suis peut-être mieux de me trouver un nouveau mot.
Ah! Moi, je vous écoute parler, je suis étourdie parce que moi, j'haïs les extrêmes, des deux bords, que ce soit de la gauche, que ce soit de la droite. Et quand on dit le mot « woke », je trouve que ça devient, oui, c'est vrai que ça devient péjoratif parce que on parle de gardien de l'injustice sociale, donc des gens qui veulent dénoncer l'injustice sociale. Je trouve ça juste dommage qu'on ait, tu parlais s'asseoir dans un parc, avoir une conversation. On ne peut plus avoir de conversation sans se faire reprocher quelque chose. Et ça, ça me dérange. Parce qu'à un moment donné, cette vision-là, qui est extrême gauche, il ne faut plus dire woke, nous ramène toujours en nous disant voici ce qui devrait être fait et voici ce qui est le chemin droit.
On n'est pas,
c'est d'être plus catholique que le pape. Et ça, c'est ça, moi, l'aspect qui me dérange, qui vient avec le terme, ça, parce qu'on n'est pas des êtres humains droits avec une ligne de pensée. Je déteste les idéologies du genre où est-ce qu'il faut et ne faut pas faire ça. On est des êtres humains ombragés avec un million de nuances.
Personne n'est pur.
Personne n'est pur. Et on nous dit qu'une pensée pure. Et je déteste ça. Oui, mais je déteste ça.
Raconte aux gens comment tu as lancé une discussion sur Facebook puis finalement, tu as juste supprimé ton post parce que tu disais, j'ai pas envie de gérer ça.
J'étais épuisée, oui. J'avais écrit un commentaire et j'avais dit, voilà les woke. Là. Tu sais, je me souviens plus exactement du commentaire, mais écoute, je pense que je devais avoir 150 commentaires de gens qui me reprochaient que le woke, justement, j'avais mal utilisé le mot woke. Après ça, j'avais des gens qui me donnaient des définitions. Après, puis à un moment donné, il était rendu 11h le soir, dimanche soir. J'ai dit à mon chum, j'ai dit un peu plus. Je suis épuisée.
À cause de l'utilisation d'un mot.
Épuisée. Parce que ça devient avec une pression incroyable. Et ce sont toujours... Moi, je pense qu'il y a même des woke narcissiques qui se mettent de l'avant en prêchant cette extrême gauche-là. Et ça, je suis plus capable de ça.
Je vais conclure.
Des gens qui se regardent le nombril en faisant la morale, je suis plus capable.
Je vais conclure là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde a une tribune. Hein? Donc, tout le monde peut amplifier son message et amplifier le message du voisin. Il y a quelques années, j'étais en voyage, puis j'ai mis une photo de moi comme statut Facebook, là, je pense. J'étais en train de lire un livre. Puis le livre s'appelle White, je pense. Là, c'est un auteur américain. Mon Dieu, je m'excuse, j'ai pas son nom. C'est un polémiste, OK? Et qui déconstruit, qui s'attaque à cette culture de l'annulation, etc. C'est un point de vue, tu sais. Écoute, je me suis fait faire des reproches parce que je lisais le livre dans le forum. Et là, j'ai posé la question à la personne qui me faisait ce reproche-là. Je dis, l'as-tu lu? Ah, disons, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu parce que le gars qui l'a écrit a dit telle affaire. Ben, j'ai dit, écoute...
Tu l'as pas lu.
Merci, monsieur le policier de la morale, m'enverrez la contravention.
Le livre de Bret Easton Ellis.
Exact, Bret Easton Ellis qui a écrit American Psycho.
Écoute, je pense que j'utiliserai plus le mot. Je vais régler le problème. Quand il va y avoir des histoires comme cette semaine, là, que vous voulez empêcher des jeunes d'aller prendre un verre dans le parc, puis que l'UQAM a appelé la police, je les appellerai plus, wow. Je vais les appeler l'extrême gauche, les radicaux de l'UQAM. Je vais utiliser d'autres mots. Puis je vais attendre que quelqu'un se lève debout puis dise, ah, moi, j'assume que je suis woke. Puis là, dans ce cas-là, ben, mais j'ai appris. Ça a l'air qu'on touche pas à ça qu'une poule de 100 pieds. C'est correct.
Continuez à m'écrire. Le feu est pogné dans la messagerie.
Faites bien!
Ça fait des clics, le wokisme, mais on n'en parle pas tous les jours ici.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut, c'est Edith. Bon, ben.
Maman? Maman?
Tu peux remplir tout de suite, s'il te plaît?
Oui.
Vite.
Ça fait 4 fois, là.
Hey!
Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde te cherche.
15h38, c'est un extrait du film Noémie dit oui de Geneviève Allaire. C'est un film, une fiction, mais qui a un angle très, très réaliste et ça aborde la prostitution juvénile.
Oui, c'est le film qui ouvre ce soir les rendez-vous Québec Cinéma. C'est signé par la réalisatrice Geneviève Allaire et elle est au bout du fil. Bonjour Geneviève.
Bonjour, c'est Geneviève Albert.
Albert, hey, mon Dieu, je m'excuse, je suis désolée.
Il n'y a pas de problème.
OK, mais ça ne veut pas dire que le film n'est pas bon. Le film est tout aussi bon, même si c'est Geneviève Albert. Geneviève, dis-moi, j'étais très curieuse de savoir, parce que c'est ton premier long-métrage. Qu'est-ce qui t'avait autant intéressé dans le sujet de la prostitution juvénile? Ça se déroule pendant le Grand Prix, donc un week-end très, très précis où cette jeune fille qui est en fugue devient escorte. Et pour faire un parallèle avec les courses, elle enchaîne, mettons, plusieurs conquêtes, plusieurs clients.
En fait, je suis sensible à la prostitution depuis que je suis adolescente. C'est comme une sensibilité ou un intérêt qui ne m'a jamais quitté. Donc, ça s'est un peu imposé comme sujet pour mon premier long métrage de fiction.
Et tu as discuté avec des jeunes femmes pour te documenter pour le film. Qu'est-ce que tu as retenu de ces témoignages?
Ben en fait, ça a vraiment été la matière première pour mon scénario là, parce que j'ai fait aussi beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup d'articles et de livres et tout ça, mais j'ai rencontré plusieurs survivantes de la prostitution, puis j'ai rencontré aussi deux adolescentes qui étaient adolescentes au moment de l'entrevue et qui étaient escortes au moment de l'entrevue quand je les ai rencontrées il y a 4-5 ans. Donc le vécu prostitutionnel que ces femmes-là m'ont partagé, ça nourrit mon scénario en entier là, c'est-à-dire que ça m'a donné accès à plein de détails, à la façon dont ça se passe exactement. Ça m'a donné accès aussi à leur, à leurs états d'âme, à comment elles ont vécu ça. Donc, ça a été assez fondamental pour la construction et de mes personnages et de l'arc narratif de mon film.
Geneviève, je lisais dans Le Devoir aujourd'hui, là, il y avait un très bon papier sur le film où il était mentionné qu'on s'attarde aux clients dans dans le film. Comment, après avoir fait la recherche, quel regard t'as posé sur les hommes qui payent pour ces services-là?
Mon regard est pas très réjouissant, évidemment, là. Mais dans mon film, j'ai pas cherché à les j'ai pas cherché à les rendre pires que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que les hommes qui achètent des services prostitutionnels, c'est des hommes ordinaires, là, tu sais. De toutes les origines, de toutes les sortes, de tous les caractères, de tous les milieux. Donc, j'ai voulu en dresser un portrait, disons, très honnête et représentatif de la réalité. Puis c'est ça, j'ai choisi d'en mettre beaucoup à l'écran, en fait, et de tourner ma caméra vers eux, parce que, étonnamment, les clients, en fait, c'est la source du problème. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de prostitution. Puis, étrangement, sont invisibles au regard de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lève la main pour dire qu'il est un client de la prostitution. Puis ils sont assez invisibles dans les films aussi qui parlent de prostitution. Alors moi, j'ai voulu aller un peu dans le sens inverse, disons, puis au contraire, leur donner un visage et un corps dans mon film.
Et ce qui est vraiment, ce qui rend le film très, très dur, là, c'est l'effet de répétition. Parce que, étant donné qu'on est concentré sur une période de 3 jours, et je rappelle que c'est pendant le Grand Prix de Montréal, elle enchaîne les clients. Donc, son chum, le proxénète, lui dit, on va faire une passe de cash pendant le Grand Prix, mais on va accumuler des clients. Et là, il y a un compteur qui roule pendant le film qu'on voit très bien avec des numéros. Et sans qu'on soit très explicite avec justement la caméra, tu es capable de nous faire sentir ce qu'une jeune escorte mineure pourrait vivre dans une chambre d'hôtel.
C'était ça l'objectif de mon film, en fait. J'ai pas voulu faire un film où j'allais, je sais pas, là, expliquer c'est quoi la prostitution. Tout le monde le sait. Donc, après un client, on aurait compris, puis voilà, ça aurait été... la case aurait été cochée. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'offrir au public une expérience immersive puis sensorielle par rapport à la prostitution. Et ça venait, entre autres, avec le choix esthétique, disons, de la répétition des clients dans le film. Fait que, je suis contente que tu dises ça, parce qu'en fait, c'est précisément l'objectif de... de cette mise en scène-là, disons.
Ben, Geneviève, je dois te dire, je suis bouleversée après avoir vu le film. Je l'ai vu aujourd'hui, puis j'ai le cœur à l'envers.
Ah oui.
Ouais. Et il y a deux actrices absolument formidables. Il y a Amy Chikwan et oui. Kelly Dépôt. Kelly Dépôt qui oui. tient le rôle principal. Comment on prépare une actrice pour aller tourner des scènes comme celle-là? Je veux avoir les deux versions, celle de Kelly Dépôt. Et comment on prépare les clients aussi? Parce qu'il faut le dire, évidemment, ce sont des comédiens. Mais comment on prépare les clients pour cette rencontre-là sur le plateau?
Bien, en fait, il y a eu énormément de préparation. Je pense que ça, c'est la clé là, pour faire des scènes semblables. Donc, c'est ça, j'ai fait passer des auditions aux acteurs. Après ça, j'en ai choisi, mettons, deux par rôle. Puis là, je leur ai fait passer des entrevues individuelles où on parlait de prostitution ensemble puis qu'on échangeait sur notre vision des choses et tout ça pour qu'ils sachent exactement dans quel film ils s'embarquaient. Après, on a visionné ces vidéos-là puis on a choisi en fait les acteurs avec Kelly, l'actrice principale qui joue Noémie. Puis après ça, on a fait des répétitions même dans la chambre d'hôtel où on allait tourner avec ma directrice photo pour tout trouver à l'avance les mises en scène puis toutes les chorégraphies des acteurs et de la caméra. Donc, en somme, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Je pense que ça a été ça la meilleure façon pour préparer tout le monde à ce genre de scène-là, disons.
Geneviève, à chaque Grand Prix, là, il va y avoir un Grand Prix là, après la suspension pandémique. Là, il y a des débats autour de la question de la prostitution juvénile. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dire que l'organisation du Grand Prix à Montréal a aussi une responsabilité. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus?
Mon Dieu, non, je saurais pas avoir un point de vue là-dessus dans le sens où, comment dire, tu sais, c'est pas de la faute au Grand Prix en tant que tel que de la prostitution pendant cette fin de semaine-là. C'est juste que dans tous les grands événements sportifs, ici à Montréal, c'est la F1, puis mettons en Europe, c'est la Coupe du Monde. Quand il y a des grands événements sportifs, il y a de la prostitution qui vient avec ces grands événements-là. Les proxénètes sautent sur l'occasion, puis la demande en services sexuels augmente énormément. Donc, évidemment, on s'arrange pour combler la demande. Donc, moi, c'est pas que je pointe le doigt sur la F1 en tant que telle. Mmh. En même temps, s'ils voulaient comme participer à l'effort collectif pour qu'il n'y ait pas de prostitution ou moins, ou en tout cas, qu'il n'y ait pas de prostitution mineure, ce serait formidable. Je pense pas qu'ils sont dans ces dispositions-là. T'sais, ils veulent plutôt s'éloigner de cette polémique-là autour de la F1 puis de la prostitution. Mais je pointerais pas mon doigt vers eux. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est que c'est toléré globalement dans notre société puis qu'il n'y a pas une volonté politique à faire changer des choses. T'sais.
Geneviève, il y a une série qui est sortie entre-temps parce que je sais que ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet de film-là qui s'appelle, la série s'appelle évidemment Fugueuse. Il y a eu deux saisons. C'est pas tout à fait, tu sais, la même vision. J'avoue qu'il y a des trucs similaires, c'est-à-dire la façon dont la jeune fille se fait embarquer par le proxénète. Mais est-ce que tu as peur que le film soit, peut-être souffre de comparaison avec la série Fugueuse?
Je pense pas. Je pense que c'est des objets vraiment différents. Oui, c'est un peu la même façon. C'est-à-dire, la façon dont les filles embarquent dans la prostitution adolescente, c'est à peu près le même schéma à chaque fois. Après, le personnage de Lévi-Vine est en tout point opposé au personnage de Noémie dans mon film. On parle pas du tout du même caractère, on parle pas du même milieu. Le proxénète, par exemple, Zach dans mon film, là, qui incite Noémie à se prostituer, il est très différent de Daniel en Fugueuse. Puis au niveau de la mise en scène en tant que telle, c'est complètement différent. Puis justement, c'est intéressant parce que Fugueuse, c'est une série, donc c'était des heures ou des demi-heures, je me rappelle plus. Mais c'était assez long. Puis dans la première saison, il y a une scène avec un client. Il y en a une. C'est une série sur la prostitution. Mmh. Moi, il y en a 16. C'est un film d'une heure et demie. C'est pas vrai. 1h55. Mais c'est des approches qui sont très, très différentes. Puis t'sais, les gens qui ont aimé Fugueuse, moi, je les incite à venir voir mon film parce qu'ils vont voir d'autres choses. Puis les gens qui n'ont pas vu Fugueuse, ben, je les invite d'autant plus à venir voir mon film parce qu'ils vont découvrir cet univers-là à travers une proposition cinématographique.
Je me doute de la réponse, mais je pose la question quand même. En quoi c'est différent du documentaire, parce que du quasi-documentaire, parce que tu as copié-collé la réalité. Mais quelle liberté tu as en tant que créatrice comparée à s'être infiltrée dans un vrai réseau, t'sais?
Ben en fait, ça serait impossible de s'infiltrer dans un vrai réseau. Il y a pas un client qui veut se faire filmer de la façon dont moi j'ai filmé les clients dans mon film. Fait que en documentaire, en fait, c'est précisément ça l'intérêt de la fiction, c'est que ça m'a permis de porter à l'écran une réalité qui par ailleurs serait impossible à filmer en documentaire. Puis ben outre ça, c'est la mise en scène d'un documentaire, c'est quand même très différent de la mise en scène d'un long métrage de fiction. Là. Donc, j'ose espérer que mon film, quand même, porte la marque d'une œuvre de fiction qui s'éloigne pas mal du documentaire.
Ben, bravo.
À part pour la recherche.
Ben, bonne chance avec la vie de ce film-là, Noémie dit oui. Merci, Geneviève Albert.
Merci infiniment.
Et je dois dire au revoir. Je dis que le film va sortir en salle le 29 avril, donc c'est vraiment dans un espace très, très rapproché.
Ça fesse, j'ai vu des bouts.
Oui.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Bon, le mec Ferrandais, je vous le rappelle, c'est une discussion entre MC Gilles, le gars de la région, et MC Ferrandais, le gars du plateau. Salut, Luc.
Salut.
Luc, hier, on...
Mon Dieu, Luc, t'arrives tout
Luc,
doux.
Luc, t'as le droit de dire plus qu'un mot quand t'arrives dans le show. Hein?
OK, d'accord, merci.
Hier, on a eu une discussion sur le billet à 500 $ qui est suggéré par la CAQ pour voyager en avion au Québec. Et écoute, t'étais pas mal monté sur tes grands chevaux. Tu dis que c'est pas une bonne idée pour l'environnement. Fait qu'on a eu l'idée d'en faire une chronique avec MC Gilles qui, lui, a un autre point de vue là-dessus. On va commencer avec toi, MC.
Ben écoute, là, j'ai commencé à faire mes recherches. Tu sais, moi, le compte Luc, je suis toujours nerveux parce que, écoute, j'hésite toujours de l'appeler Monsieur le Maire, Monsieur Ferrandez. Je sais pas s'il faut lui dire vous. Tout ça pour dire que j'ai regardé combien ça coûtait donc pour aller faire un petit tour d'avion un petit peu partout. Alors en ce moment là, si vous voulez aller à Rouyn-Noranda, et là j'ai été honnête, je suis allé sur le site le moins cher. Là, je vous le nommerai pas, mais c'est un site qui répertorie toutes les compagnies. Ça oscille à Rouyn entre 610 et 850. $ à peu près. Maintenant, si je veux aller à Gaspé, là, c'est plus cher, c'est entre 900 et 1300 $ quand même. Et si je veux aller à Sept-Îles, ça reste toujours à peu près autour de 700 $ Donc, si on parle, le gouvernement de la CAQ prévoit 500, c'est pas... En passant, ça pourrait arriver, là, j'ai un argument pour Luc en partant, c'est pas tant que ça. Tu sais, s'il paye 500, ça te coûterait 200 au lieu de te coûter 500-600. Bon, peu importe. La question de Luc, c'est...
Mais toi, t'es d'accord avec ça. T'es d'accord avec ce programme-là.
Moi, je comprends nos deux pôles. C'est-à-dire que moi, j'ai le pôle, il faut occuper les régions. Avant de penser à voyager dans le monde entier, et là, je pense déjà à Luc sur la protection de la planète, plutôt qu'aller en Nouvelle-Zélande, plutôt qu'aller en Afrique, plutôt qu'aller en Asie, en Amérique du Sud, pourquoi pas visiter nos lieux? Et de toute façon, on va polluer, on va y aller en auto. Donc, si, par exemple, j'ai mon billet à 200$ pour aller à Sept-Îles, il y a des maudites bonnes chances que j'aille voir les îles de Mingan. Si j'ai mon billet à 300$ pour aller à Gaspé, il y a des maudites bonnes chances que j'aille faire un tour sur la plage là-bas. Et puis, si je vais en Abitibi, je vais y aller beaucoup plus souvent que si je vois que c'est aussi long à la New York en char qu'y aller, qu'aller à Rouyn-Noranda.
Luc! Fait
que voilà.
Mais moi, je pense pas que c'est une si grosse économie que ça, premièrement. Ben, avant de parler d'environnement, là, c'est que c'est 500 $ mettons, tu t'en vas, 4 billets d'une famille, t'en vas aux Îles-de-la-Madeleine, 4 billets, t'arrives là-bas, ça t'a coûté 2000 $ Là, faut que tu loues une auto en arrivant. Là. Tu vas pas marcher juste autour de l'aéroport, là, tu vas vouloir te promener. Les systèmes de transport en commun aux Îles-de-la-Madeleine, pas fort. Là.
Il y a l'autobus aux heures et demie.
Quoi?
Non, c'est pas vrai.
Il s'appelle, le transport en commun là-bas, il s'appelle Gaétan.
Oui, ça se peut, tu prennes un taxi, un Uber, un je sais pas quoi, tu vas en prendre 2-3, mais à un moment donné, là, tu veux visiter les îles, là, tu vas pas tout le temps rester autour de la maison que tu as louée. Bon, fait que là, as-tu vu les coûts de location de voiture pour cet été? C'est à se jeter la tête, tu sais, à se frapper la tête sur les murs. D'ailleurs, ça remet en cause mon modèle de fonctionnement. Parce que moi je prends des communautés et l'été, je loue une voiture pour faire du camping ou quoi. Écoute, une voiture pour mettre de l'équipement de camping, là, puis de 3 personnes, là, 2000 $ par semaine.
Au Québec.
Au Québec. 2000 $ par semaine. Avant, c'était 1000 $ par mois à cause de la pénurie de voitures. Attention les yeux, tous ceux qui n'ont pas d'auto se mordent les doigts en ce moment en disant « Ih, peut-être que mon affaire ne marchera pas ». Mais revenons à notre affaire à nous, là, les 500 $. Ben, ça t'a coûté 2000 pièces d'avion, puis ça va te coûter un autre 2000 pièces de voiture. Et là, t'as pas mangé un maudit Doritos, mm-hmm. là, puis t'es rendu à 4000.
Fait que, oui, mais en voyage, ça va te coûter de l'argent pareil. Là,
oui, je sais, mais tu sais, est-ce que vraiment, okay. Ça c'est mon argument 1. Mon argument 2, puis là, évidemment, mon argument A1, là, c'est l'environnement, puis je reviendrai. Mon argument 2, tu sais, je te disais hier, y a-tu un endroit où tu te poses en avion au Québec, puis c'est satisfaisant là où tu t'es posé? Tu sais, tu t'en vas, mettons, à Toulouse, tu peux visiter Toulouse pendant quelques jours.
C'est partout sur la terre de même, Luc.
Hein?
C'est vrai partout sur la terre de même.
Non, c'est pas vrai partout sur la terre
ben
de
oui,
même.
Ben oui, t'atterris à Charles de Gaulle, mon pauvre, toi, tu prends ta maudite 45 minutes de train avant d'arriver à Paris.
Oui, c'est sûr.
C'est le même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, est-ce que tu irais une semaine à Rouyn-Noranda pour visiter Rouyn-Noranda?
Oui, non, tout le tour. Et là, c'est là que l'intérêt, c'est là qu'hier, je t'ai trouvé condescendant.
Vas-y.
Avec les gens de l'extérieur. Toi, je sais, Luc, te connaissant, que tu vas débarquer à Athènes, à Rome, à Paris, à Londres, à Prague. Mais il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui, eux, ça les intéresse pas. Ils s'ennuieraient comme la pluie à Athènes. Après deux jours, voilà de l'autre côté, là. Ils trouveraient ça pas intéressant. Mais moi, te dire, aller faire un petit tour à la Manique, là, ils vont triper. Ils vont aller à la chasse, ils vont aller à la pêche, ils vont aller faire du quatre roues, ils vont se louer un camp de bois, ils vont faire des feux dehors, ils vont... Pour eux autres, ça va être la grosse affaire. Pourquoi tu jugerais ça que c'est moins...
Oui, mais attends, y a-tu des vols vers Manique?
Non. Voilà à Bagotville. Tu vas à Bagotville, ouais.
Non, mais
là,
attends,
tu prends ton
attends,
char. Puis pas de
attends, attends. Moi, je pense pas que les gens vont aller en avion faire du quatre roues. Je pense pas ça.
Ben non, mais si tu débarques à cette île, mettons, là, oui, tu loues un char, puis tu te promets, tu te trouves une pourvoirie, ils vont venir te chercher, puis l'affaire va être ketchup. Tout ça pour...
Bon, OK, regarde, c'est comme ça dans les Laurentides avant. Tu sais, tu débarquais du train, puis les auberges venaient te chercher, puis après ça... Ben, mettons que c'est possible. J'avoue que, je dois te donner raison sur ça, là. J'avoue que le modèle que j'avais en tête, c'est, vas-tu aller visiter une ville... Mon impression, c'est non. Ben, en fait, tu me donnes un peu raison.
Ben non, Luc,
regarde, parce que tu vas pas aller visiter. Tu vas pas aller visiter Gaspé. Tu vas aller visiter la Gaspésie.
Ben oui.
Bon, tu vas pas aller visiter Rouyn. Tu vas aller visiter l'Abitibi. Fait que c'est, on a des toutes petites destinations. C'est ça que je voulais dire. Puis, par exemple, la Côte-Nord. La Côte-Nord, là, t'es un des plus beaux paysages du monde. Mm-hmm. Sauf partout où on a construit quelque chose. Parce que on a construit de façon très, 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 quasiment sibérienne, là, des gros entrepôts.
Soviétique, là, c'est très, Luc, c'est très québécois. Le Québec des paysages est magnifique. Le Québec bâti, bien souvent, c'est lettre en petit Jésus-Plan.
On va être d'accord là-dessus. Mais je reviens...
Attends, il n'est pas fini.
Ce que je disais, c'est que la route, c'est souvent l'esprit même du voyage. Sauf quand tu vas en famille. C'est un auditeur qui m'y a fait penser. Ouais. Tu t'en vas visiter la famille au Saguenay, ben là, ils vont venir te chercher à l'aéroport, puis tu ne vas pas avoir envie tant que ça d'aller visiter la région, tu as envie de visiter la famille, puis ils vont t'amener à droite à gauche. Ça, c'est un excellent exemple. Là. Tu vas visiter ta vieille mère en Gaspésie ou au Saguenay, c'est excellent. Pour les familles, c'est excellent.
Ben
mais est-ce qu'on a tant de ça de place où tu sais, tu vas à New York, tu prends l'avion, tu vas à New York, bon, mais tu restes à New York. Mais tu prends l'avion, tu s'en vas à Gaspé, tu restes pas à Gaspé, à part si tu es de la famille, tu vas promener voir la Gaspésie. Et c'est ça que je veux dire, c'est que la route fait partie du voyage.
Ben oui, sauf que si tu peux te sauver ton 10-12 heures de route, tu vas le faire. Tu sais, mettons, à Sept-Îles, quand j'étais jeune, moi, je viens de Québec, là, j'ai un de mes oncles qui s'appelle Gilles. Salut, Gilles. Il est à Sept-Îles. On allait le voir à Sept-Îles. Où on prenait le char, puis on passait proche de se tuer, plus le traversier de la Tadoussac. Tu sais, sérieusement, vous avez déjà fait cette route-là, là, c'est beau, mais c'est terrible, ailleurs. On prenait Québec Air de Québec, c'était pas cher. Pout, on atterrissait à Sept-Îles. Mon oncle venait nous chercher. On passait une semaine là. On était contents. Oui, on faisait le tour. Puis ce sont les plus belles plages au monde. Et grâce au réchauffement, Luc, d'ailleurs, merci beaucoup de réchauffer la planète. D'ici quelques décennies, ça va être des plages comme Putnacana. Tout ça pour te dire que, blague à part, on y allait en avion parce qu'on sauvait le maudit trouble d'y aller. Fait que moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle.
Ouais, okay.
Juste une seconde, on va y aller avec quatre.
Ouais, moi, j'ajouterais à ça. T'sais, moi, je suis native de cette île. Mes parents ont habité là-bas. Et nous, c'était l'inverse. On prenait l'avion pour aller visiter notre famille dans notre coin.
Tu m'amènes au point qu'on a oublié dans
le
chemin.
Okay, c'est pas juste le monde de Montréal qui s'en va en région. Il y a du monde de région qui vient à Montréal. Okay? Puis, je me transpose à l'époque. Mes parents n'étaient pas très riches. Là, mon père finissait l'école et tout ça. Puis là, mes parents venaient visiter la famille ici à Drummondville, à Montréal. Bon, ben, tu sais, je veux dire, prendre l'avion avec ton enfant, ta femme, revenir, beaucoup plus agréable à 500 $ de venir visiter ta famille qu'à 4000, tu sais. Moi, je me mets dans la peau de ces gens qui habitent loin.
Mais d'abord, je vais aider Luc, là. J'ai une question pour toi, Luc. Mm-hmm. C'est quand même injuste. Si on y va avec l'œuf et la demande dans un système capitaliste, là. C'est ce que je te disais hier. C'est quand même bizarre que si je magasine, j'ai plus le goût avec mon portefeuille d'aller au bout du monde ou aller en Europe qu'aller, de découvrir les propres section de mon propre pays, tu sais.
Ouais, ça, l'affaire de découvrir son pays, là. Bon, premièrement, je trouve que les exemples que vous avez donnés, vous avez choisi l'exemple loin en Simonac. Hein. C'est pas tout le monde qui a de la famille à cette île. Je veux dire.
Bon, il va en avion, Luc.
Oui, oh, c'est correct, c'est parfait. Là. Pour... C'est sûr que si tu as de la famille en Sibérie, c'est mieux d'y aller en Sibérie en avion. Mais quand tu choisis des coins loin, 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 l'avion, il était plus intéressant. Mais est-ce que. Ce matin, justement, Nathalie Normandeau disait bon, moi, je vais à Maria, en Gaspésie, pourtant assez loin, mais je vais y aller en auto. Parce que c'est 200 $ de gaz. À place de 500 $ par le billet d'avion. Puis en plus, si on est plusieurs dans la voiture, ben là, c'est un seul 200 $ de gaz, alors que c'est plusieurs 500 $ de billet d'avion. Si tu vas à Rouen, je pense pas, moi, que les gens vont y aller en avion. Peut-être quelques-uns. D'ailleurs, l'avion, il contient 19 personnes. Là, il y aura pas, c'est pas un changement démocratique. C'est pas toute la population de Montréal qui va aller là-bas. Mais, ou de Québec, je pense que dès que tu es en dedans du 10 heures d'auto, là, mettons, autour du 8 heures d'auto, là, j'ai bien l'impression que il y a des gens qui vont beaucoup de gens qui vont choisir la voiture, à moins que je me trompe.
Ben, c'est sûr que tu prendras pas l'avion pour aller dans Charlevoix. Tu sais, l'avion, ouais, ça devient ça. Intéressant quand t'as justement plus que 8 heures de voiture à faire, si tu peux l'économiser.
C'est ça. Donc, c'est quelques destinations pour lesquelles les arguments que vous apportez sont valables.
Mais le meilleur exemple, c'est vraiment les îles. Y aller en char, c'est un cauchemar. T'sais. Moi, je l'ai fait deux fois en avion, c'est une merveille. T'arrives là en pleine forme, ça prend 2 heures et c'est magnifiquement beau, t'es pas brûlé.
Moi, je l'ai fait deux fois en voiture.
C'est l'enfer, hein?
Ben!
Mais c'est parce que t'arrives brûlé.
T'arrives brûlé, sauf que quand t'arrives à destination en avion, là, t'as besoin d'un véhicule là-bas. Là.
Ou tu connais quelqu'un qui va venir t'aider.
Luc, toi, ton opposition, je vais dire qu'elle est philosophique, elle est très pratique dans le fond. Là. Tu penses pas qu'on devrait subventionner des voyages en avion, point.
Point final. Si j'aurais pu arrêter là la chronique, là. J'aurais pu dire, moi, regarde.
Ouais, je comprends.
Juste si t'as pas le droit, un point, point, ben, interdit.
Ben, je vais encore faire l'avocat du diable. Peux-tu m'expliquer pourquoi on saute encore à parachute d'abord? Lui, il monte 48 fois dans les airs pour rien, puis il redescend. Au moins, le gars qui s'en va à Rouen, il sert à quelque chose, là. Il
oui,
va
ben,
à Rouen.
Écoute, regarde, c'est pas compliqué. On a signé les accords de Paris. Puis on a signé les accords de Paris. Le GIEC nous dit, pour atteindre ce pourquoi vous avez signé, ben il faut éviter telle chose. Puis dans les telle chose, il y a un voyage en avion. Fait que si on avait juste à pas signé les accords de Paris. Tu sais, cette idée-là de dire, ben on s'occupe de l'environnement quand on parle d'environnement. La minute qu'on n'en parle plus, on s'en occupe plus.
Donc, un DC-8, c'est pas un Airbus ou un Boeing non plus.
Non, mais je sais pas exactement. Je suis pas capable de comparer un DC-8 avec un Airbus. Je suis pas un ingénieur. Mais ce que je peux te dire, c'est que la production de carbone, de GES, de gaz à effet de serre, est énorme par un avion par rapport à une voiture, puisque il faut que tu calcules le même nombre de kilomètres, la même pollution par kilomètre pour une personne. Donc, si tu vas à Gaspé en voiture, c'est la même pollution que si tu vas en avion.
Okay.
Mais si tu es quatre dans l'auto, c'est pas la même chose.
Je vais te poser une question différente. Disons que la mesure qui a été annoncée par Québec, là, de plafonner le billet d'avion au Québec, c'est la plupart des destinations, à 500 $. Si c'était réservé aux gens des régions qu'on dit éloignées pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils ne soient pas enclavés dans le fond, là, serais-tu d'accord?
Oui, je pense qu'il y a des situations où... pour de désenclaver, ça pourrait être intéressant, puis ça limiterait énormément le nombre de personnes qui feraient ça. Puis il faudrait voir, puis il faudrait regarder aussi les catégories de personnes. On parle tout le temps, tu sais, on parle des familles, la réunion des familles, les personnes âgées, etc. On dit pas, chose bien est allé dans un camp de chasse avec son chum, là. Si tu vas dans un camp de chasse avec son chum, paye, estique. Paye!
Non, mais il y a le tourisme aussi, Luc. Les Européens qui viennent ici, tu le sais, ils veulent pas visiter le Vieux-Québec puis le Vieux-Montréal. C'est pas ça qui les intéresse. Ce sont les grands espaces.
Oui,
Macabane,
oui,
au Canada.
Oui.
C'est ça qu'ils veulent voir.
Oui, c'est vrai.
Quand ils débarquent à Montréal, là, puis qu'on, là, justement, ils louent un char ou quelque chose, puis ils passent, là, par la cochonnerie de Dorval puis tout ce qu'ils voient, ils disent, c'est que ça de pays de chenoute que je suis rendu là. Si on pouvait leur donner un petit vol puis les envoyer tout de suite au Saguenay ou sur la Côte-Nord où c'est beau, ben, ça serait déjà ça de fait, maudite merde de Calvin. Moi, je sais, ils passent à 40 puis là, ils sont là. Tu connais ces voyages-là, là. 8 jours, ils vont Niagara, Toronto, ils vont au Saguenay, ils font le tour de l'île d'Orléans, ils font le tour de la Gaspésie.
Puis en revenant, ils leur restent une couple d'heures. Ils disent, on va-tu à Niagara?
Ben, ils aiment-tu ça faire l'autobus, champion? Et si, Monac, tu vas aimer ça? Fait que moi, eux autres, je pense, je sais que si vous allez me dire c'est un cliché, je suis désolé, je les connais, c'est pas un cliché. Ils veulent faire du traîneau à chien, puis ils veulent faire du 4 roues, puis ils veulent aller voir les
lèvres. Ils veulent faire de la route aussi, mais on le dira pas, là.
Ils veulent faire de la route. Oui,
mais je pense qu'ils aiment ça.
Oui, mais pas 3000 kilomètres.
Ouais, ils trouvent ça loin. Mais
l'argument que j'ai pour toi, attention, je te le donne. Je te le donne.
Ben, je vais le prendre.
On s'entend que la CAQ, où est son vote?
Ben oui, c'est ça.
Ben.
C'est la même raison pour laquelle la CAQ n'a pas accepté, n'a pas reconnu qu'il y avait une crise du logement jusqu'à temps que ça touche toutes les régions. Là, oui, oui, il y en a une, il y en a une. Mais, tu sais, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'il y a une crise du logement à Montréal. Non, il n'y en a pas. Mais c'est sûr que là, tu touches un paquet de régions, puis c'est un cadeau électoral, puis ça, c'est marqué cadeau dessus, là. Oui. C'est marqué cadeau. Mais moi, je reviens sur mon point environnemental. On peut, tu sais, il faut avoir ce que les Américains appellent, ou des Anglais en règle générale, de gravity. De la gravité. C'est-à-dire, des fois, il faut que tu te dises non à toi-même.
De la hauteur.
De la hauteur, tu sais. Ouais, nous, on dit
sans,
de la hauteur.
Sans mauvais jeu de mots en parlant d'avion, tu sais.
Oui, bon, ayons de la hauteur. Cette semaine, il y a une annonce. Cette semaine, là, tu sais, 20 millions de personnes menacées par famine dans l'Afrique de l'Est à cause des sécheresses extrêmes, des sécheresses comme il n'y en a pas eu depuis 40 ans. Kenya, Somalie, Éthiopie. 20 millions de personnes. Là, quand tu vois les photos avec les madames qui ont les enfants dans les mains, qui broient, puis ils tirent sur les seins, puis il n'y a rien qui sort, là. Et là, tu te dis, j'ai-tu vraiment envie d'avoir une réduction sur mon billet d'avion, moi, là?
Luc, on revient au débat sur l'environnement. Je sais, je te connais. Là, tu t'en sors, c'est chaud. On devrait parler de bicycle d'ici 45 secondes. Là. Le point, c'est, on le dit depuis toujours, on est prêt à faire des efforts individuels, Luc. Mais qu'on fasse des efforts individuels ou non, il n'y a pas de volonté mondiale ni étatique de changer les choses. Ça ne changera rien. Je suis désolé.
À vous donc, MC, puis Catherine aussi, puis Patrick. Puis ça,
pas qu'à faire.
Avouons ensemble qu'il n'y en a pas non plus au Québec. Là. Il n'y en a peut-être pas en Chine, il n'y en a pas au Québec non plus. Là. Il n'y en a pas plus au Québec qu'en Chine. Nous autres, on veut, tu sais, on veut le gros kit. Là. Nous autres, on est des adolescents gâtés pourris. Là. Ah ouais, donne-nous des réductions sur les billets d'avion. Donne-nous des réductions sur les billets de parking. Puis donne-nous ci, puis donne-nous ça. Nous autres, là, on n'en fera pas d'efforts. On veut pas faire d'efforts. On veut pas.
C'est pas ça que je te dis.
Oui,
je te dis.
Hey, je peux-tu te parler des régions, une autre affaire? Là. Bon, on a parlé de l'adeur.
Ne dis-moi pas que c'est lettre, ben, c'est ça.
Ben, je te dirais pas que c'est lettre parce que les paysages sont magnifiques.
Je te l'ai déjà dit, Montréal, défends-moi pas ça en disant que Montréal, c'est beau, par exemple.
Mais non.
Montréal, c'est ben, plus lettre.
Laisse le monsieur finir.
Non, mais moi, c'est lettre.
Laisse le monsieur finir.
MC, je me suis fait élire pendant 10 ans à Montréal pour essayer de l'embellir. Je suis d'accord avec toi que c'est lettre. À des grands boulets, en tout cas. Mais, tu sais, les régions, si. Est-ce que l'idée, c'est vraiment, là, ce 61 millions-là, là, moi, j'ai tout le temps pensé que s'il y avait des gestes structurants qu'on pourrait faire pour améliorer un coin ou un autre, là, on en pogne un, là, on va Rimouski-Rivière-du-Loup. Là.
C'est beau, Rimouski.
Oui, c'est des beaux endroits.
C'est beau, Rivière-du-Loup.
Il y a quelque chose là-bas, il y a un esprit. Tu sais, quand tu t'en vas voir les oies à Montmagny, mettons. Là,
ouais.
Hey, colibois. Tu te rends à Montmagny, là, tu passes à côté des maisons, tu dis, ah, tiens, je suis revenu à Laval. C'est bizarre, ça. Mm. Tu sais, un time-lapse. Je suis revenu à Laval, tu as les maisons en clin, puis en clin de vinyle.
Wow. T'as un coucher de soleil hallucinant.
Voilà.
T'as gros cils, t'as les oiseaux, c'est magnifique.
C'est magnifique.
C'est pas beau.
Mais
t'as pas ça à Laval, là.
Ben non, t'as pas tout ça à Laval, mais l'endroit que tu traverses pour te rendre au coucher
de
soleil...
Le bout de la rivière des Mille-Îles à Laval, c'est pas mal beau.
Oui.
Continue, Luc.
Mais ce que je veux dire, c'est que l'endroit que tu traverses pour te rendre à cette beauté-là est horrible. Il est juste banal. Il est juste terriblement banal. Regarde, oui, un autre exemple, le Saguenay.
Ce que j'appelle le New Jersey. Toutes nos entrées de ville ressemblent au New Jersey.
Tu sais, le Saguenay, là. C'est une des plus belles affaires qu'on a, là, le fjord. Là, c'est magnifique. Il y a 3 lignes de haute tension qui traversent ça. Y a-tu 3 lignes de haute tension qui traversent le Grand Canyon? Non. T'sais, à chaque fois que je me suis promené dans le Québec, là, la rivière Jacques-Cartier, une des beautés, le parc national de la Jacques-Cartier, ouais. Là, une fois que tu t'enfonces dans le parc, c'est magnifique. Tout le long, là, quand tu prends la route pour t'aller au Saguenay, là, puis que tu passes, il n'y a pas une seconde où tu n'as pas, non seulement pas une ligne de haute tension, 2 puis 3 lignes de haute tension qui t'accompagnent tout le long. Tu es supposé d'être rendu là, dans le fond du fond de la nature. Là. Toi, tu t'imagines que tu es Crocodile Dundee. Tu as débarqué de l'avion de Paris, parce qu'on va prendre cet exemple-là. Puis là, tu as fait 10 heures d'auto. Mais là, tu es où? Tu es à côté d'une ligne de haute tension qui n'en finit plus.
Ben, on fera des usines à charbon à Montréal.
Non.
Je te niaise.
Ben, non, mais c'est parce que là, tu sais, regarde, avec l'augmentation de la consommation qu'on va avoir, puis le remplacement sans réduction du pétrole par l'électricité, des lignes de haute tension, il va y en avoir partout au Québec. Est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur la beauté?
Oui!
Ce sera l'objet d'un autre McFerrandaise, messieurs. Out.
Super.
Merci d'avoir participé. Merci, Mme Beauchamp.
Moi, j'attends un 4 Ferrandaise. On va se parler de ruelle verte.
Ah oui.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Un concept qui te dérange un peu, hein, 4?
Beaucoup.
Demain.
Beaucoup. Je vais te parler de mon expérience.
D'accord, Luc, demain?
On peut faire ça demain.
Demain, on piétine les ruelles vertes?
Oui.
Toi, t'es pour ça, okay. Luc?
Oh oui, ben je vais défendre ça. Ben, pas toutes les ruelles vertes.
Il choque déjà.
Il est jamais où on l'attend. Merci, Luc. Merci tout le monde.
Bye.
Oui, Netflix, vous m'écrivez. C'est une nouvelle là qui a, disons, un petit peu frappé l'imaginaire, parce que Netflix, c'est une forme de symbole pour ce qu'on appelle le streaming. Et là, en bourse, Netflix a perdu le quart de sa valeur, parce que on annonçait une croissance, on avait une prévision de croissance des abonnés. On en a perdu 200 000 au premier trimestre. Ça semble que ce soit une première perte nette d'abonnés en 10 ans. Moi, je dois vous dire, Catherine et MC, j'ai longtemps été fan de Netflix, j'en consommais beaucoup. Et dans la dernière année, ish environ, là, je trouve que le contenu est moins bon que c'était. Y a moins de rendez-vous. Même pour les films, je trouve que la sélection est pas très grande. Beaucoup de films de série B. Les séries elles-mêmes, qui étaient fortes. Moi, je me suis abonné à Netflix grâce à House of Cards, la série là sur la politique américaine. C'est une fiction, évidemment, assez déjantée, mais c'est le génie de cette série-là, c'était que tu t'attachais à des psychopathes. C'est un tour de force, là. Mais depuis, il y en a que j'ai aimé, mais dans la dernière année et demie à peu près, là, je trouve que c'est assez ordinaire. Puis je me pose des questions à savoir si je reste sur la plateforme ou pas.
La ligne officielle de Netflix qui explique pourquoi on aurait perdu autant d'abonnés, c'est la diminution du service en Russie. On dit qu'on a perdu 700 000 abonnements et que sans cet impact, nous aurions 500 000 abonnements supplémentaires. Bon, ça, c'est une des choses. Ça se peut que ça ait affecté le nombre d'abonnements de Netflix, mais moi aussi, je suis déçue depuis une bonne année et demie, du contenu qui m'est offert sur Netflix. Je trouve que pour un The Crown, il y a à peu près 5 séries de série B, ce qui fait que moi, je consulte beaucoup d'autres plateformes, comme par exemple HBO. Hier soir, j'ai commencé le premier épisode de la série.
Par Crave,
exactement. HBO Crave, là, c'est fusionné ensemble pour ici au Québec. Mais j'ai regardé le premier épisode de la série First Ladies. Hey, l'argent est à l'écran, c'est vraiment bon. The Golden Age, qui est un peu un dérivé de Downton Abbey. J'aime les séries qui sont riches et bien faites. Pas juste des séries d'époque, mais des séries où on a mis de l'argent et du contenu. Et je trouve aussi que Netflix a le défaut d'étirer tout le temps la sauce, de se ramasser avec des saisons.
Une saison 3 4, et 4. 5, et
ouais, 4, 5, 6. Puis à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, on a fait le tour et ça devient plus bon. Alors, je suis vraiment déçue. Ça fait très longtemps que j'ai pas consulté une série, à part peut-être des trucs de réalité, comme par exemple Selling Sunset ou l'agence, là, c'est agent immobilier en France. Mais ça fait longtemps que je suis pas tombée en amour avec du contenu Netflix.
Écoute, je suis à peu près comme vous. Moi, je suis encore abonné, mais j'y vais jamais. Fait que je suis épais. Je devrais me faire rembourser puis attendre, là, tu sais, au mois de juillet, rattraper des affaires. Je pense que la compétition a fait mal, tu sais, juste en perdant Disney puis Marvel, là, quand Disney Plus est arrivé. Ils ont perdu tout ce contenu-là de sa première fois. Et même affaire Amazon Prime, quand tu vas sur Amazon Prime, je ne suis plus membre Amazon, mais je vais quand même voir qu'est-ce qu'ils ont. Tu peux louer à pièce en passant, comme quand tu allais louer une cassette vidéo. Tu peux louer un film à 3,99.
Mais leur contenu s'est amélioré de beaucoup.
Ben, c'est ça, ils ont comme pris tous les bons films. Tu sais, mettons, vous avez trouvé ça absurde, mais l'autre jour, je voulais revoir, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est un classique de l'humour absurde. Pas sur Netflix, cherche. Amazon l'a acheté, mais il était sur Netflix avant. Donc, on dirait que Netflix, avec la compétition qui est arrivée, au lieu de s'ajuster puis de devenir plus compétitif et meilleur, c'est bon de la compétition parce que ça t'améliore, ben maudit, ils se sont effoirés. Puis la seule affaire que j'ai vue intéressante là, dans les dernières semaines, c'est Drive to Survive, la série sur la Formule 1. C'est la seule affaire.
Quelqu'un m'écrit, bon, il y a Squid Game qui a été le buzz de l'année. Là, c'était avant Noël.
Ouais.
C'est vrai, une fois que tu l'as regardé, après ça, oui, il y a du stock. T'sais, si tu viens de t'abonner à Netflix, tu n'as jamais été sur Netflix, il y a beaucoup de contenu, c'est vrai. Mais si tu es un habitué, à un moment donné, la critique qui revient souvent là, dans la messagerie au 98-985, c'est que à un moment donné, tu fais le tour. Puis là, tu tombes dans ce qu'on appelait des films qui sortaient directement en vidéo à l'époque, par exemple.
Straight to DVD.
Puis quand tu passes plus de temps, Patrick, sans blague, et tout le monde
à chercher
qu'à
trouver,
ça, c'est pas supposé.
Et il y a quelqu'un qui me parle de la Casa de Papel. Puis quand tu dis étirer la sauce. Casa de Papel, saison 1, moi, j'ai été accroché. J'ai vraiment aimé ça. Saison 2 aussi. Excuse-moi, là. Et quand tu arrives à saison 3, règle générale...
Tout ce qui a été rabouté. Là.
Règle générale, ça sent... OK, on va cacher parce que le monde aime ça. Mais faut que le contenu suive. Faut que les intrigues suivent. Faut que l'argent soit à l'écran. Puis là-dessus, je trouve que Netflix est en train d'en reperdre. Puis à une époque, tu sais, je parlais de l'époque où ils se sont révélés. Ça fait longtemps que ça existe, Netflix par ailleurs. Hein. Avant ça, c'était un service de...
Location.
Oui, de location. Puis la particularité, c'est qu'ils te l'envoyaient par la poste. Là, ils se sont transformés. Le virage numérique, ça a marché chez Netflix.
Ils ont compris ce que Blockbuster n'a pas compris.
Exact. Ouais. Mais tu sais que Blockbuster a refusé de les acheter à une époque.
C'est ça, je te dis. Okay. Ils ont compris.
Mais là, sont arrivés les Amazon, Disney, Apple. C'est quoi le dénominateur commun de ces trois compagnies-là? C'est que le cinéma, la télé, c'est pas leur business principal. Ils ont tellement d'argent, ces trois géants-là, qu'ils peuvent se lancer un service de streaming qui va leur coûter des dizaines, des centaines de millions, mais ça fait pas une différence. Netflix, ça fait une différence de mettre des dizaines, des centaines de millions. Ils sont pas ils font pas partie d'un conglomérat qui a beaucoup d'autres cash dans d'autres domaines. Donc, eux, moi, je pense que ça va être... Je sais pas s'ils vont tomber, Netflix. Mais s'il y en a un qui tombe, ça va être eux autres bien avant les autres.
Et on a aussi la tendance d'aller acheter. Ça, ce que je trouvais formidable avant, mais que finalement est devenu encore une fois édulcoré, c'est-à-dire d'aller chercher des séries très populaires un peu partout ailleurs dans le monde. Ouais. C'était le fun. Ouais. Quand on parlait au départ de la Casa des Papels, on voyait...
Qui parlait, c'est la Corée du Sud.
T'sais. Voilà, c'était des séries dans d'autres langues qu'on trouvait tellement bonnes que c'était pas grave si on les regardait avec un sous-titre ou même en surimpression vocale. Là. Mais... Je trouve qu'à un moment donné, d'aller acheter le contenu B qui a été produit en Espagne...
Mais
c'est comme, mon Dieu, c'est ordinaire
en tabarou. Mais oui, c'est québécois ça, exactement. Qui là-dessus, là.
T'as raison. Sauf que dans un marché qui est devenu hyper concurrentiel, ils ont peut-être pas le choix d'acheter du contenu de série B pour garnir leur catalogue. Parce que de l'autre côté, t'as Amazon, t'as Disney, t'as Apple ici, bon, t'as HBO, Crave, etc. T'as plein de plateformes qui maintenant cherchent du contenu un peu partout, sont plus seules. Moi, je pense aussi au consommateur là-dedans qui est toujours sollicité pour un 10$, un 11$, 22$, semble-t-il, le format familial de Netflix. À un moment donné, tu sais, on pensait que ça nous coûterait moins cher de couper le câble, mais si tu veux une bonne offre, ça va finir par te coûter ce que ça te coûtait pour avoir un service de câble qui a du bon sens.
Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas monogame avec mes plateformes de streaming. J'ai besoin de 5-6 amants.
Et deux petites choses en terminant. Faites comme vous faisiez à l'époque, vous alliez au club vidéo. Moi, maintenant, j'achète beaucoup plus à la pièce.
Aller au club vidéo.
Non, mais Internet.
Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça.
Attends, Apple TV, puis Amazon, puis acheter à la pièce. Acheter un film que vous voulez voir, une série. Apple, là, ça se fait tout seul.
Hey, à 35$ la série, MC, c'est cher, là, sur Apple, là.
J'aime mieux ça que m'abonner à leur maudite plateforme. Deuxième affaire, on m'écrit une auditrice, si je mal. Elle dit, pour les enfants... Oui, c'est vrai, pour les enfants, quand vous les asseyez devant Pat Patrouille, là. Sauf que Disney Plus, c'est pas mal là pour ça aussi. Puis je vais vous donner un truc gratis. YouTube.
Pour le club vidéo, si on complète l'analogie, quand tu nous dis d'acheter à la pièce, bêta ou VHS?
Moi, j'ai encore mon bêta. Tu me connais. Ça marchait en tête, bêta.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.